Bonjour et bienvenue sur La Voie Verte, le podcast qui vous accompagne sur le chemin d'une vie plus verte. Nous sommes Julie et Laetitia, les créatrices de ce podcast. Potager, plantes vertes, jardinage urbain, compost, cueillette sauvage. Dans chaque épisode, nous abordons un thème lié au monde végétal avec un ou une invitée. À travers ces interviews, nous vous donnons des conseils pratiques pour prendre soin de vos plantes et explorons ensemble le monde fascinant de la nature vivante. La Voie Verte est le podcast de Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers, que nous avons fondé toutes les deux. Ce magazine papier indépendant est dédié au jardinage, aux plantes et à la nature et sort tous les trimestres. Pour en savoir plus, direction Vert Magazine, veirmagazine.com. Allez hop, c'est parti pour la classe verte!
Bonjour, ici Julie. Dans cet épisode, j'accueille Aude, qui gère le blog au joli nom, Serfouette et Binette. Aude y partage depuis plusieurs années sa passion pour le potager et a lancé dernièrement une formation en ligne, 40 kilos de légumes en partant de zéro. Aujourd'hui, avec Aude, nous allons parler du potager en carré, sa grande spécialité. Ces carrés de culture potagère, délimités par des planches, sont désormais bien connus, et on le verra, s'adaptent parfaitement aux débutants. Aude nous raconte alors comment se lancer dans un potager en carré, et elle vous donnera tous les conseils nécessaires pour y récolter de savoureux légumes. Bonjour Aude, merci d'être là aujourd'hui dans cet épisode de La Voie Verte.
Eh bien écoute, merci de m'accueillir sur le podcast. Tu sais que je suis une grande fan de Vert Magazine, alors je suis ravie d'être là avec toi et d'avoir l'occasion de discuter un peu de potager.
Super, bah tout d'abord peut-être tu vas te présenter un peu pour ceux qui te connaissent pas et surtout nous parler un peu de ta formation que tu as lancée du coup autour du potager.
Ben écoute, donc moi je m'appelle Aude et je suis l'auteur du blog serfouetteetbinette.com et je publie des contenus pour aider les néo-jardiniers à faire leur potager à la maison. Donc quand je dis néo-jardiniers, ben ça veut dire les personnes qui débutent au potager et qui n'ont pas forcément d'expérience du jardinage au préalable. Mais ça englobe aussi en fait des jardiniers qui ont déjà une petite expérience du potager traditionnel, on va dire, mais qui ont envie de revisiter leurs pratiques pour aller vers des techniques peut-être plus efficaces, qui demandent moins de boulot et un peu plus permacole. Donc le truc, c'est qu'à la base, tu vois, moi, j'y connaissais vraiment rien au potager, j'avais pas la main verte, et tu vois, j'ai grandi en ville à Paris, et j'étais plutôt la fille qui faisait crever toutes les plantes vertes. Mais après la naissance de mes enfants, je me suis passionnée pour l'alimentation vivante, l'alimentation santé, parce que j'avais envie de nourrir mes enfants avec une nourriture sans pesticides et pour moi aussi pour retrouver un peu d'énergie. Et du coup, dès qu'on a pu concrétiser en fait notre projet d'acheter une maison avec un jardin, j'ai eu envie de m'y mettre et d'essayer de faire mon potager. Donc du coup, c'était un peu un challenge au début vu d'où je partais. Mais je me suis vraiment prise au jeu et j'ai été scotchée en fait de découvrir ce don incroyable qu'on a tous, qui est de faire pousser notre propre nourriture en fait tout seul. Et depuis, je m'en suis pas remise. Hein. J'y suis toujours et je continue. Au début, en fait, j'ai commencé à documenter mes progrès sur un compte Insta, le compte Instagram de Serfouette et Binette. Et puis, moi, quand j'ai commencé, j'ai dû tout apprendre de zéro, tu vois. Donc, en fait, réinventer quasiment la roue. Et je me suis dit que je devais pas être la seule dans ce cas-là. Et du coup, ça m'a donné envie, en fait, d'apporter ma pierre à l'édifice et de d'aider les débutants à s'y mettre et surtout à leur faire gagner du temps. Parce que moi, j'ai eu l'impression de passer des heures et des heures sur le net à compiler une tonne d'infos, à regarder des milliers de tutos et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'un peu plus efficace à proposer et du coup depuis un an j'ai eu envie d'aller plus loin pour partager cette passion du potager et de faire un truc vraiment utile. Donc j'ai créé ma formation qui s'appelle 40 kilos de légumes en partant de zéro et c'est une formation en ligne sous forme de vidéo préenregistrée. En fait, c'est ma méthode, étape par étape, le plan d'action exact que j'applique chez moi, que j'ai appliqué en partant de zéro, pour être maintenant quasi autonome sur les légumes d'été. Et l'idée, c'est que je voulais que mes participants aient tout sous la main, sans courir à droite à gauche sur le net et remettre les étapes en fait dans le bon ordre. Donc en gros, je pars du début. Je prends mes élèves par la main et je les aide à choisir l'emplacement stratégique du potager pour commencer. Je leur montre comment installer rapidement un potager hyper productif sans y passer des heures et surtout comment s'affranchir en fait d'un sol de départ qui peut être de mauvaise qualité dans son jardin. Dans la formation, je propose aussi une sélection de légumes qui sont parfaits pour débuter, et j'accompagne cette sélection en fait de tutos en vidéo et de fiches de culture. Voilà, pour accompagner les participants de la graine jusqu'à la récolte. Voilà.
On remettra de toute façon, évidemment, toutes les infos dans la barre de description, mais nous, on a déjà pu voir ta formation, du coup, puisque tu nous y as donné accès gentiment, et elle est vraiment hyper complète. Donc, voilà, on pourra en reparler, je pense, pendant l'épisode, là, mais bon, il y a plein de choses chouettes quand on débute, voilà, pour se lancer sans avoir peur de mal faire, évidemment. Mais alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier, on va parler du potager en carré, qui est quand même un peu un sujet que tu abordes tout au long de ta formation, donc en ligne et même voilà, sur ton blog ou sur tes réseaux. Et toi, tu commences en fait avec le terme de planche de culture, qui je pense ne parle pas forcément trop aux débutants. Donc est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots du coup qu'est-ce que c'est une planche de culture et pourquoi c'est important du coup de se poser cette question-là de quelle planche de culture je vais utiliser pour mon potager ?
Très bonne question, parce que en effet, toute ma méthode est basée sur le credo que le moteur d'un potager productif, c'est la planche de culture. Alors la planche de culture, tout simplement, ça veut dire la zone spécifique où on va planter nos plantes potagères. Et ça peut prendre différentes formes, finalement. En général, c'est un rectangle de terre cultivable. Ça peut être la plate-bande traditionnelle, à même le sol du jardin. Ça peut être des carrés de potager, ça peut être des buttes de permaculture. En fait, peu importe la forme de cette planche de culture, ce qui compte, c'est que le substrat en fait dans lequel on va cultiver nos légumes soit le plus riche possible et qu'il faut vraiment le bichonner. Et le bichonner, en prendre soin, déjà, ça veut dire bannir complètement l'usage des pesticides qui tuent toute la vie du sol. Et ça veut aussi dire adopter une philosophie qui consiste à nourrir le sol plutôt que les plantes. Donc, de changer un petit peu la logique d'utiliser des engrais et de penser surtout à nourrir son sol avant les plantes.
Tout à fait. Ça, on aime bien le dire chez Vert aussi. C'est pareil, on arrose priorité le sol. En réalité, on a toujours un mauvais biais vu qu'on s'occupe de nos plantes en priorité. Et du coup, toi, tu t'es intéressé du coup à la méthode du potager en carré. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à l'origine, parce qu'on entend parfois parler de potager en carré à l'américaine, à la française. Est-ce qu'il y a des différences ? Qu'est-ce que tu conseilles toi pour quelqu'un qui voudrait débuter avec cette méthode-là ?
Ben écoute, pour ce que j'en connais, en effet, la méthode du potager en carré, ça vient des États-Unis, où ils appellent ça le square foot gardening. Comme tu sais, ils ont un système d'unité de mesure qui est un peu différent de notre système métrique, donc eux, ils parlent en pieds. Et en fait, dans la méthode de l'américain Mel Bartholomew, qui a popularisé cette technique, ben en fait, il a utilisé des carrés qui font à peu près 1,20 m par 1,20 m, qu'il a subdivisé en 16 petits sous-carrés de 30 cm de côté. Donc ça, c'est la méthode à l'américaine. C'est 16 petites cases dans un carré de 1,20 m par 1,20 m. Et c'est pas mal, c'est très intéressant. Mais les Français, parce qu'il faut toujours qu'on fasse les choses un peu différemment, ont revisité ça. En fait, c'est Anne-Marie Nagelessen, qui parle beaucoup de ça dans son livre que je recommande, qui s'appelle « Le guide pratique du potager en carré à la française ». Et du coup, l'idée, c'est d'agrandir un peu ces petits carrés qui font 30 cm de côté pour passer à, en fait, découper ton carré de 1,20 m par 1,20 m en un jeu de morpion de 9 cases au lieu de 16, ce qui donne des petits carrés de 40 cm de côté au lieu de 30. Et en fait, à l'usage, c'est plus confortable, tu vois, c'est un peu moins étriqué et tes plantes potagères ont un peu plus de place pour se développer. Et personnellement, c'est plutôt vers ça que je vais.
Est-ce que, du coup, pour toi, c'est vraiment la solution qui est hyper indiquée pour des débutants qui voudraient débuter un potager ? Est-ce qu'il faut quand même un espace particulier ? On a aussi beaucoup de personnes qui jardinent maintenant. Alors, on parlera peut-être des personnes qui jardinent avec un balcon, c'est un peu différent. Mais même dans des tout petits jardins, est-ce que c'est faisable ? Est-ce qu'il voilà, il faut un, deux, trois ? Est-ce que voilà, il y a des caractéristiques particulières où vraiment on peut se lancer en fonction de son espace ?
Bah écoute, moi je trouve que au contraire, le potager en carré, c'est plutôt très bien indiqué pour des petits potagers. Alors quand je dis petit potager, je parle de de 10 mètres carrés jusqu'à 100 mètres carrés. Moi, je pense que si tu cherches vraiment à atteindre l'autonomie alimentaire, il faudrait de toute façon avoir un potager beaucoup plus grand et auquel cas la méthode du potager en carré, tu vois, ça devient quelque chose qui est peut-être un peu compliqué à mettre en œuvre. Mais quand on a un petit espace de jardin, au contraire, je trouve que c'est super et c'est d'autant mieux indiqué que la terre de départ du jardin n'est pas d'excellente qualité. Parce que justement, moi, ce qui m'a poussée en fait à aller vers cette technique, au-delà du fait que je trouvais ça joli et que j'aimais bien la façon dont c'était organisé, bah, c'est que chez moi, j'ai une terre de jardin qui est vraiment pas terrible. C'est une terre de remblai un peu, tu vois, qui devient béton, très, une terre qui est très claire. C'est pas du tout la terre noire, fertile, tu vois, qui va bien aux plantes potagères. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis intéressée à cette technique, c'est que ça permet vraiment de s'affranchir totalement du sol qui est en dessous, parce que en fait, on vient rapporter de la terre de l'extérieur au-dessus, finalement, du sol de base du potager.
Ouais, alors justement, on va peut-être du coup avancer sur cette question-là. C'est une question qui revient souvent. Je pense qu'il y a confusion avec le thème du carré hors sol, ou en tout cas le potager hors sol qu'on voit parfois, et où du coup les gens comprennent pas bien si un carré potager, en réalité, est-ce que tu le mets dans ton sol de jardin directement ? Est-ce qu'il faut le remplir de terre que tu vas apporter ? Et puis on va voir qu'est-ce que tu conseilles comme terre qu'il faut ajouter, ou est-ce que c'est hors sol ? Est-ce qu'il y a un fond en fait à son carré ? Des fois, on voit des carrés potagers en vente où il y a un tissu géotextile à mettre ou carrément même un fond pour jardiner complètement dehors, par exemple, sur une terrasse. Ou
des carrés potagers sur pied, en fait, sur pilotis.
Complètement.
Quasiment. Alors, en effet, ça existe, mais moi, l'approche que je défends, c'est plutôt celle d'un carré potager en pleine terre, si tu veux. Je ne mets pas de fond dans mes carrés potagers parce que justement, mon approche, c'est de cultiver sur un sol vivant et donc de absolument pas rompre le contact avec le sol qu'il y a dessous, parce que ce qu'on veut, c'est inviter en fait la vie du sol dans nos carrés de potager. Et quand je dis la vie du sol, c'est toute la micro... faune, microflore, macrofaune, voilà. Donc on veut inviter tout un tas de bestioles en fait dans nos potagers, dans les fameux vers de terre. Et donc non, c'est de la culture, pas du tout hors sol, c'est complètement en pleine terre en fait.
Ouais, puis il y a un avantage, c'est que on peut s'affranchir, donc comme tu dis, d'un sol qui serait pas optimum au démarrage, quoi, trop argileux ou trop sableux. Mais en réalité, vu qu'on va cultiver au-dessus, ça va quand même petit à petit améliorer le sol du dessous. Donc ça aussi, c'est intéressant, les racines vont un peu décompacter aussi, les sols qui sont un peu compacts. Donc ça peut être intéressant. Et du coup, on met quoi alors dans notre carré ? Parce qu'il faut forcément remplir un peu, vu qu'on est quand même, on surélève forcément un peu le niveau du sol. On met n'importe quel type de terre ou
Non, bah, l'idéal, c'est de remplir les carrés de potager avec de la terre végétale. En fait, la terre végétale, c'est la terre idéale. Pour le potager, elle est idéalement composée en fait de sable, d'argile et de limon. Et c'est vraiment ce que je recommande pour démarrer. Après, ça dépend. Si on a une terre dans son jardin, si on a la chance d'avoir une terre de jardin qui est déjà pas mal, je sais pas s'il y avait déjà un potager avant ou si juste on a du bol. Pourquoi pas utiliser la terre qu'on a déjà en fait. Bien sûr, et peut-être consommer un peu moins de terre végétale du coup.
On va parler du coût aussi, parce que c'est un aspect important, vu qu'on forcément on rajoute des éléments au potager, la question financière arrive vite. Le potager en carré a un peu l'image quand même d'un potager qui serait cher, entre le cadre, ce qu'il faut rajouter, les sacs de terreau, on sait tous qu'il en faut en réalité pas mal pour remplir un carré même de petite taille. Est-ce que c'est forcément quand même une technique qui coûte cher ? Est-ce qu'il y a des astuces du coup pour diminuer un petit peu les coûts ? Est-ce que t'en connais et t'en partages toi ?
Alors c'est vrai que c'est un investissement, dans le sens où on va dépenser de l'argent pour acheter des carrés, comme tu dis, les cadres de bois, et qu'on va remplir de terre. Mais après, je te dirais deux choses. C'est que déjà, démarrer un potager en pleine terre, si on part d'un sol de mauvaise qualité, c'est pas forcément gratuit non plus, parce que si le sol est de mauvaise qualité, il va falloir y apporter beaucoup d'amendements. Et ça, ben, c'est pareil, hein. Soit on a la chance d'être un peu en campagne et d'avoir accès à des ressources de centre équestre, d'un infirmier à côté qui peut nous dépanner avec de la paille, des plateformes de compostage et ainsi de suite. Mais sinon, il faut acheter quand même aussi ces matériaux. Donc, c'est pas complètement gratuit. Et le deuxième truc, c'est que oui, c'est un investissement, mais tu le fais une fois au début et après, tu profites quand même beaucoup de tes récoltes parce que ça t'économise des sous sur ton panier de courses et parce que tu te fais du bien à la santé. Donc moi, je le vois vraiment comme un investissement dans ma santé. Et ensuite, oui, il y a des astuces pour quand même réduire le coût d'installation d'un potager en carré. Ben déjà, c'est de le fabriquer soi-même. Si on est bricoleur et qu'on a accès à des matériaux de récup. Et puis, ensuite, en ce qui concerne la facture de terre végétale, parce qu'au final, un carré de potager, les planches en soi, ça coûte pas si cher. On trouve des kits dans le commerce, dans les 25 euros. Je trouve que ça reste quand même abordable. Ce qui coûte plus cher, c'est la terre, en revanche. Et là, il y a des astuces permacole pour remplir ces planches de culture, du coup, avec des déchets verts de récup. En plus, c'est génial parce que ça permet de recycler ces déchets qui seraient autrement pas valorisés. C'est d'utiliser en fait la technique de butte en lasagne appliquée au carré de potager, donc de remplir ces carrés avec un empilement de déchets végétaux. Et j'explique ça dans la formation.
Oui, tout à fait. On en avait parlé aussi dans notre tout premier numéro du coup. Ça s'applique même pour ceux qui ont un tout petit potager en pot. On peut très bien remplir ces pots aussi avec la méthode des lasagnes du coup. Et c'est vrai que ça fait une sacrée économie quand même en fonction du volume qu'on a. On va parler ensuite peut-être de conseils de culture et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Mais avant, je me dis que ça peut être bien de partir un peu chez toi quand même et de donner envie aux gens. On est au mois de mai, c'est encore un mois, tu vas nous le dire, mais c'est un mois qui est encore super pour commencer son potager. Il y a plein de choses à faire. Il y a quoi chez toi? On trouve combien de carrés? Qu'est-ce que tu cultives? Qu'est-ce que tu vas mettre bientôt en terre? Ou peut-être que tu as déjà pas mal de choses qui poussent. Voilà, histoire de donner un peu envie avant de donner quelques conseils plus pratiques.
Alors, si je te fais un peu le tour du propriétaire chez moi, moi, en fait, j'ai trois grands bacs potagers qui font 2,30 m par 1,70 m et 50 cm de haut. Donc, bon, en gros, c'est un peu différent de ce que je préconise comme taille de carré de potager dans ma formation parce que j'invite les gens à se limiter à une largeur de 1,20 m, tout simplement parce que au-delà, en fait, on a du mal à accéder aux cultures qui sont au centre des carrés de potager. Mais bon, moi, en fait, c'est un paysagiste qui a installé ça chez moi à un moment où j'étais un peu moins avancée qu'aujourd'hui sur toutes ces connaissances. Et du coup, j'ai pris ça comme ça. Bon, voilà, si c'était à refaire, je le referais différemment. Mais bon, j'ai des grands bacs. Voilà, j'ai des grands bacs qui représentent au total l'équivalent de 8 planches de culture carrées de 1,20 m par 1,20 m.
Ouais, une jolie surface quand même.
Ouais, c'est déjà pas mal. Mais en fait, au début, je trouvais que c'était grand. Mais pour te dire, aujourd'hui, je me sens presque un peu à l'étroit et j'ai déjà rajouté d'autres carrés, en fait, 4 carrés supplémentaires de 1,20 m par 1,20 m. Donc, ça fait 12 au total. Et en fait, je me suis agrandie pour donner beaucoup de place à mes fraisiers, à mes pommes de terre et à mes courges. Et du coup, bah, en ce moment, mon potager est encore assez vide, figure-toi. J'ai du thym qui est vivace, j'ai de la ciboulette qui est repartie, j'ai un peu de coriandre, donc voilà, j'ai des herbes aromatiques, j'ai des blettes, j'ai des oignons qui ont passé l'hiver et j'ai des laitues. Voilà, mais en fait toutes mes plantes potagères, les légumes d'été qu'on attend tous avec impatience, et ben pour l'instant eux ils sont dans ma mini serre, voilà, dans ma couveuse de bébé plantes, voilà, et patiente que les températures remontent un peu pour se lancer. Donc du coup je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur le mois de mai. Pour moi le mois de mai c'est vraiment le mois où commencer quand on est débutant parce que c'est vraiment la belle saison et tout est tellement plus simple quand on démarre à la belle saison. Parce que oui, quand on s'y connaît, on peut cultiver toute l'année, bien sûr. Et dans la formation, je propose un calendrier mensuel, en fait, si tu veux, qui couvre toute l'année et qui indique quoi faire et quand en termes de semis, de repiquage, de plantation en pleine terre, de gestes d'entretien et de récolte. Mais honnêtement, moi, j'ai commencé mon premier potager au mois de mai. Et ça s'est très bien passé. Alors après, la petite subtilité, c'est que oui, c'est un peu tard, je te parlais de mes semis, c'est un peu tard pour démarrer des semis maintenant, donc c'est sûr. Mais en revanche, les jardineries et les pépiniéristes sont pleins de plants super beaux qu'on peut tout simplement acheter et pour se dépanner la première saison et planter directement au mois de mai. J'attends qu'il fasse un peu meilleur et je vais me lancer sur tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, courgettes, concombres, les courges. Et mon gros focus de cette année, ça va être les haricots. On va installer un dispositif pour faire grimper des haricots parce que j'en ai fait l'année dernière, mais pas assez. Donc là, je mets le paquet sur les quantités. Et bien sûr, au-delà des stars de l'été, il y aura aussi les radis, les laitues, les fenouilles, je vais tenter cet été. Et puis, c'est déjà pas mal.
Ouais, super. Bon, on voit que tu es impatiente aussi. Mais du coup, ça me fait penser, alors on n'a pas parlé de la taille. Alors, évidemment, tu nous as un peu évoqué la taille du carré potager en pratique. On le voit dans ta formation aussi que tu dis qu'on peut très bien aussi les coller, on n'est pas obligé de mettre un carré, puis un grand espace, une grande allée, un carré, etc. Mais est-ce qu'il y a quand même des tailles, tu nous disais, du coup, quand même de se limiter à 1m20, en tout cas de pouvoir accéder effectivement au centre de ces cultures. Il y a aussi, voilà, si on sème en pleine terre, évidemment, on va éviter de ruiner ces petits semis en allant récolter d'autres légumes. Donc il y a quand même des contraintes un peu de taille, que ce soit hauteur, largeur, longueur. Est-ce que tu peux donner un conseil un petit peu simple pour un débutant qui ne sait pas trop comment installer et quelle taille prévoir pour son carré potager du coup ?
Alors, le 1m20 par 1m20 dont je parle depuis le début, voilà, cette taille un peu standard fonctionne parfaitement. Mais après, comme tu l'as dit, le petit problème de ces carrés de 1m20 par 1m20, c'est que quand on n'a pas beaucoup de place dans son jardin et qu'on les multiplie, ben en fait, on perd de la place dans les allées. Donc, la petite astuce, en fait, c'est d'accoler 2 ou 3 carrés de potager, ou alors de partir directement, si on les fait soi-même, en fait, de planches plus longues. Donc, on peut très bien avoir une planche de culture qui fait 1m20 de largeur, mais après, à partir sur 2 mètres, 3 mètres, voire 4 mètres de longueur, je pense qu'après, ça fait un peu trop. Et puis, en termes de hauteur, en fait, j'ai envie de te dire que plus la hauteur de terre est importante et mieux c'est, parce que ça permet d'avoir un bon enracinement, notamment pour certaines plantes potagères qui ont un système racinaire qui va chercher vraiment en profondeur les minéraux et nutriments. Mais ça dépend aussi de la terre de base qu'on a chez soi. Si on a de la terre de pas trop mauvaise qualité, 20 cm rajoutés, c'est déjà super. Si on peut aller jusqu'à 40 ou 50 cm de haut, c'est vraiment génial. Au-delà, bon, ça fait beaucoup, beaucoup de terre à rapporter et du coup, la facture grimpe vite.
Comment tu cultives à l'intérieur du carré ? Alors, tu nous parlais des 9 carrés, donc un carré de 1m20 par 1m20 divisé en 9 petits carrés. Donc, je suppose qu'après, tu organises tes carrés en fonction de la culture que tu veux mettre. Mais comment tu associes ça à toutes les autres techniques et principes qu'on voit partout, du type associer les bons légumes, faire la rotation, l'espacement des plants aussi, ou même tu nous disais que tu cultivais des courges, toi, voilà, tout ce qui est légumes très imposants, les concombres, ou comme tu disais, les haricots qu'il faut faire grimper. Comment on fait pour partir de « ok, j'ai 9 petits carrés, mais maintenant, comment je vais faire ? Peut-être que ça va déborder, est-ce que je peux mettre… un grand légume dans 2 carrés. Enfin, voilà, comment s'organiser pour pas trop mélanger les pinceaux, quoi.
Il y a plein de trucs à dire sur tout ça. Alors, c'est vrai que dans la méthode de base, on découpe son carré de 1m20 par 1m20 en, comme on a dit, le jeu de morpion de 9 cases. Je trouve que c'est pas mal quand même de rester là-dessus au début parce que ça permet d'avoir une bonne vision assez ordonnée, en fait, des différents plants qu'on met dedans. Et ça permet d'optimiser, j'ai envie de dire, la densité cultivée, mais tout en respectant quand même une certaine distance minimum entre les plants. Moi, dans ma formation, je propose des outils de planification pour guider, justement, les néo-jardiniers sur tous ces principes. Alors, ce qui est sûr, c'est que pour moi, la première règle de planification à respecter, en fait, avant de rentrer dans des principes un peu plus avancée, on va dire, d'association et de rotation, c'est vraiment de respecter l'espacement entre les plans. Et en fait, tu l'as très bien dit, entre des radis, voilà, tu vas pouvoir récolter une vingtaine de radis dans un petit carré de 40 cm par 40 cm. C'est totalement différent quand on parle de la courgette. La courgette, elle va carrément monopoliser 4 carrés de 40 par 40. Elle est complètement exubérante, elle déborde sur les voisins. Et ça, quand on débute, c'est pas quelque chose qu'on maîtrise forcément. Donc moi, j'essaie de proposer des outils visuels pour que les gens se rendent compte en fait de l'espace que prennent les plants. Après, les courges, c'est sûr que tu en parlais, c'est aussi un cas particulier, c'est un peu comme la courgette, sauf que les courges, elles, ce qu'elles ont tendance à faire, c'est à courir sur la longueur. Donc, j'avoue que moi, je les sors de mes carrés et je leur dédie un espace, voilà, rien que pour elles, où elles peuvent s'éclater et courir dans tous les sens, à déborder des carrés, parce que sinon, ça met le bazar dans le reste de tes cultures. Et puis après, en ce qui concerne les associations et les rotations, c'est sûr que moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je m'y suis intéressée. Dans la formation, je l'aborde aussi. Je parle de famille botanique. Je mets en avant les associations connues qui fonctionnent bien. Maintenant, je pense que faut pas non plus se prendre le chou, comme on dit au potager, avec tout ça. Parce que finalement, un potager en carré, ce qu'il fait, c'est qu'il mixe à l'intérieur d'une même planche de culture plein de végétaux différents. Donc, déjà, en soi, si tu veux, tout est mélangé, on n'est pas du tout sur de la monoculture. Donc, je trouve que les enjeux d'épuisement du sol sont quand même réduits. Et en ce qui concerne les associations, en fait, moi, finalement, avec l'expérience, je me raccroche à des choses assez simples fonctionnent. Mettre des œillets d'Inde au pied de mes tomates ou du basilic. Si je fais des carottes, je vais essayer de les associer avec des oignons parce que on sait que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Mais en fait, je pense qu'il faut éviter que ça devienne aussi un casse-tête. Bon, pour aider les gens, je propose une planche toute faite en fait, d'un schéma de plantation que tu peux reproduire tel quel.
Super. Et est-ce qu'il faut pas mieux alors se simplifier un peu la vie, surtout quand on débute? Donc déjà, tout à l'heure, on a parlé des semis versus plants. On est en mai. Il est un petit peu tard de toute façon pour les semis, à part voilà, ceux qui sont obligatoires, évidemment, comme les radis ou les carottes qu'on va faire directement en pleine terre. Mais est-ce qu'il n'est pas plus simple, un, déjà d'opter pour des plants, parce que quand on débute, voilà, il n'y aura pas déjà toute la surveillance en amont du semis, etc. Et de faire une croix sur un rendement, voilà, tu parlais d'autonomie alimentaire, évidemment, on n'en est pas là, mais même sur un rendement énorme, quand on voit que, voilà, tu nous dis que la courgette prend 4 cases, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut cultiver au tout début? Est-ce que toi, tu conseilles plutôt de garder, voilà, les 9 cases et de peut-être viser des légumes plus petits et des, voilà, et plutôt de semer, bah, régulièrement? Typiquement, tu nous parlais d'une vingtaine de radis, c'est déjà chouette, on peut ressemer ensuite et en avoir, voilà, tout l'été, quoi.
Écoute, moi, ce que je préconise, c'est surtout de cultiver les légumes qu'on aime. En fait, déjà, c'est le premier principe. Ensuite, ce que je conseille aux gens qui débutent, c'est d'aller vers des légumes qui sont productifs. Parce que, en fait, ce qu'on veut, c'est quand même remplir des paniers, quoi. Tu vois, ce qu'on veut, c'est quand même se régaler du potager. Parce que, en fait, si ce qu'on récolte, ça suffit même pas à remplir 4 assiettes. Bon, tu vois, je trouve que le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Donc, moi, ce que je privilégie, c'est surtout des légumes productifs. Et du coup, comme la tomate, ça donne vraiment beaucoup. Et la courgette aussi. Donc après, il faut voir. Mais je trouve que la courgette, elle reste quand même drôlement intéressante au potager en carré parce que un pied de courgette, ça peut donner des dizaines de courgettes. Donc, on se régale. Et l'autre chose que je mets en avant, c'est d'aller sur des légumes ou des fruits qui font vraiment la différence avec ceux du commerce, soit parce que la différence est énorme sur le goût, donc là je pense à la tomate et aux fraises, soit parce que c'est des légumes qui sont extrêmement traités par des pesticides et fongicides dans le commerce, donc des poivrons... les oignons et l'ail et tout ça, c'est des choses qui sont assez traitées et que on a du coup intérêt à faire chez soi.
Ok, et est-ce qu'on peut aussi cultiver des légumes, on en parle dans le numéro 5 du coup de Vert Magazine, là, des légumes qu'on plante plutôt au printemps mais qu'on va récolter beaucoup plus tard, qui ont des temps de croissance plus longs, comme bah, les poireaux pour l'hiver, les carottes, voire des choux, alors là, qui prennent aussi beaucoup de place. Mais comment on peut essayer de conjuguer, alors dans un seul carré, ça va être sans doute un petit peu difficile, mais voilà, pour quelqu'un qui aurait deux ou trois carrés, est-ce qu'on peut quand même essayer de cultiver des légumes qui sont un peu plus longs, mais qui pourront peut-être nous apporter aussi un peu de nourriture, voilà, début d'automne, début d'hiver, hein, en fonction des, évidemment du climat qu'on a.
Écoute, on peut. Maintenant, j'avoue que moi, dans mon arbitrage personnel, comme je te dis, je vais plutôt sur des légumes qui sont plus gratifiants et qui vont me remplir des paniers entiers. Et c'est vrai que dans mon potager, même si j'aime bien ça, je fais pas forcément de choux et de poireaux parce que, comme tu l'as dit, c'est des légumes à croissance lente et que finalement, ça occupe beaucoup de place au potager sur longtemps. C'est quelque chose que je fais pas. Si j'avais plus de place, j'en ferais, mais c'est mon arbitrage personnel. Mais faut que chacun aille vers ce qu'il aime. En revanche, ce que j'essaye de faire, c'est que dès que mes légumes d'été sont terminés, arrivent fin août, début septembre, dès qu'une place va se libérer au potager, j'essaye d'enchaîner sur de nouveaux semis, des épinards, de la mâche, des laitues d'hiver, pour continuer quand même à me régaler du potager sur les mois plus froids.
D'ailleurs, petite question de certains débutants qui, pour le coup, eux, cultivent pas un peu moins souvent, on va dire, pas de généralité, mais en automne et surtout en hiver, notamment dans certains climats où c'est quand même très compliqué, où là, il faudra beaucoup de protection hivernale, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ces carrés potagers l'hiver, quand il n'y a rien dedans? Est-ce qu'on les oublie? Est-ce qu'il faut quand même les pailler? Est-ce que tu as un petit entretien à faire, je pense peut-être au cadre, est-ce qu'il faut des fois les réparer, est-ce qu'il y a des choses à vérifier qu'on pourrait faire peut-être plutôt l'hiver avant, en tout cas le début du printemps d'après, quoi.
Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu comme on le sent. Le potager, c'est une activité qu'on se réserve pour les beaux jours, parce que ce qu'on aime, c'est passer du temps dehors quand il fait bon, et auquel cas, en fin de saison d'été, on vide tout, on se débarrasse de la biomasse, surtout en la recyclant en compost, et puis on paille tout. Ça, c'est très important, parce que il faut absolument pas laisser la terre à nu, la laisser passer l'hiver comme ça sans couverture. Donc, je recommande systématiquement de pailler. Donc, on peut très bien faire ça. L'option un peu plus intéressante, ce serait de semer de l'engrais vert, en fait, en début d'automne, histoire de régénérer un petit peu le sol, et d'avoir ce double bénéfice, en fait, d'une couverture végétale et d'enrichir le sol en azote par le biais de ces cultures. Et ensuite, quand on est vraiment mordu, on se lance à cultiver toute l'année, à étendre les ailes de saison. Donc, comme je disais tout à l'heure, à rattaquer direct avec des semis d'épinards qui, pour le coup, sont moins présents au potager d'été parce qu'ils ont trop chaud. Donc, quand arrive l'automne, c'est l'occasion d'en refaire. Et puis, bien sûr, l'automne, c'est aussi une période qui est propice pour rajouter du compost dans son potager, pour le nourrir.
Tout à fait. Et tu nous parlais tout à l'heure, du coup, on n'a pas parlé, toi, tu as rajouté des carrés qui sont dédiés à une seule culture, du coup, c'est intéressant comme fonctionnement. Donc, tu as un carré, si j'ai bien compris, donc dédié au fraisier. Alors là, je te comprends tout à fait, évidemment, parce qu'un petit carré de 40 cm par 40 cm, ça ne suffit pas pour les fraises, on est d'accord. Et un carré dédié aux pommes de terre. Et alors ça, c'est chouette, parce qu'il y en a, pour le coup, c'est une culture assez facile à faire et qu'on pense peut-être moins apte, en tout cas, à être mise en carré potager. Mais là, pour le coup, toi, chez toi, comment ça s'organise, ces carrés-là?
C'est en effet des cultures que je réserve dans des carrés dédiés. Pour moi, elles ont toute leur place au potager en carré, mais avec cette petite adaptation qu'il vaut mieux les mettre à part, pour des raisons différentes. Les fraisiers, c'est parce que, déjà, on en veut beaucoup, donc en effet, comme tu dis, 40 cm par 40 cm, ça va pas suffire. Mais c'est aussi parce qu'une fraiserie, en fait, c'est assez génial d'ailleurs, les pieds de fraisier se multiplient tout seul quand arrive la fin de l'été. Et du coup, en fait, si on les laisse faire, ils ont tendance à coloniser en fait l'ensemble de la planche de culture. Donc je trouve que les séparer des autres copains, ça permet voilà qu'ils vivent entre eux et de mieux gérer sa fraiserie. Pour les pommes de terre, c'est une question que quand on va récolter les pommes de terre, en fait on va souvent utiliser une fourche bêche et soulever la terre pour aller récupérer les tubercules. Et ça, ben quand on fait ce geste-là, ça a tendance à déranger un peu les voisins, d'aller embêter les racines des plantes potagères qui est à côté. Donc voilà, pour une question de commodité et de bon voisinage, je préfère mettre mes pommes de terre dans un appartement séparé.
Tu as bien raison. Et du coup, tu nous disais que toi, c'est un peu aussi le fait d'avoir eu des enfants qui t'avaient donné un peu cette envie-là de te mettre au potager. Est-ce que ça les intéresse, eux, le carré potager? C'est quelque chose qui se fait aussi beaucoup avec des enfants, parce que déjà, on est un peu plus à hauteur pour eux. Et c'est souvent plus ludique aussi. Est-ce que toi, voilà, t'as vu cet effet-là chez eux? Ça a permis de les intéresser un petit peu peut-être au jardinage?
Absolument, absolument. Ils sont assez fans, ils aiment bien. Ils ont demandé à avoir leur potager dédié, un peu chacun chez soi, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son potager. Et donc, mes deux garçons ont chacun leur petit espace. Et ce qu'ils aiment beaucoup, c'est quand même deux phases de la culture potagère, c'est le semis et la récolte. Voilà, au milieu, ça les intéresse un peu moins, mais c'est vrai qu'ils ont quand même toujours beaucoup de plaisir à aller mettre les mains dans la terre, à tracer des sillons, à déposer des graines, arroser, toujours sympa. Et puis surtout quand ils vont récolter en fait ce qu'ils ont eux-mêmes semé, ils sont dingues, ils adorent.
Ça c'est super. Et du coup tu parles d'arrosage, comment ça se passe l'arrosage en carré? Est-ce qu'on peut mettre des systèmes, tu sais, automatiques si on part quelques jours? Est-ce que tu arroses toi directement au jet ou à l'arrosoir, ou est-ce que tu as un système un petit peu plus automatisé?
Alors moi personnellement, je suis une grande adepte de l'arrosage automatique, parce que en fait pour moi, le potager, ça doit jamais être une corvée. On doit jamais subir le potager. Et quand on se retrouve à devoir arroser, et je trouve que ça devient pénible, en fait. Clairement, moi, j'ai assez rapidement installé un système d'arrosage automatique qui me décharge énormément, voilà, de transporter des arrosoirs et des arrosoirs jusque dans mon potager, ou de le faire à la main. En plus, je trouve que c'est une méthode d'arrosage qui est plus efficace et plus économe, en fait, parce qu'on arrose finalement en goutte à goutte directement la terre du potager, et on régule voilà ces arrosages comme ça avec un programmateur. Donc je trouve que c'est assez efficace. Dans ma formation, j'ai un chapitre sur ça, où j'apprends, je montre en fait comment j'ai installé mon système d'arrosage chez moi et comment on peut le reproduire en l'adaptant chez soi.
Ben super, c'est bon à savoir. Du coup, une des dernières questions, puisque tu as quand même créé toute une formation spécifique un peu potager en carré. C'est quand même une technique dont on entend de plus en plus parler, alors pour plein de raisons, parce que c'est peut-être plus simple, c'est plus esthétique aussi, on en parlait, mais c'est aussi important hein, pour l'incorporer dans un jardin. C'est aussi, on a aussi envie des fois d'avoir un beau jardin, même avec un potager. Est-ce que toi, tu le vois, ça, ce côté attrait? Est-ce que tu as eu des retours déjà de ta formation? Est-ce que les gens trouvent que c'est vraiment une technique qui s'adapte peut-être un petit peu mieux à leur pratique, au fait d'être voilà, ou débutant ou dans un petit espace?
Écoute, moi je trouve que c'est une méthode qui séduit, parce que, comme tu disais, ça permet d'avoir un potager assez esthétique dans son jardin. Tout est bien organisé, c'est assez commode de circuler entre ces planches de culture, comme tu disais tout à l'heure, sans risquer d'écraser ses semis. Voilà, je trouve que la planification est assez facile. Et après, moi, ce que je trouve aussi, c'est que en fait, c'est presque une technique qui te permet d'avoir un meilleur rendement finalement par rapport à la place cultivée, le carré de potager, parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on cultive sur un substrat qui est d'excellente qualité dès le début. Donc ça, forcément, on l'a dit, le moteur du potager productif, c'est la planche de culture, c'est le substrat. Donc là, on part directement sur de la bonne terre, donc forcément, ça donne. Et aussi, en fait, on cultive avec une assez grande densité de légumes, donc peut-être même plus dense qu'un potager traditionnel. Donc moi, je trouve que le rendement est vraiment bon. Et c'est vrai que pour l'instant, dans ma formation, j'ai plutôt un bon accueil de cette méthode. Je suis contente parce que je vois mes élèves qui m'envoient des photos de leur potager en construction et de leur semis qui poussent. Donc, c'est assez gratifiant de voir que beaucoup ont adopté la technique. Et puis, j'ai créé un groupe Facebook pour que tout le monde puisse échanger, un groupe d'entraide pour montrer ses réalisations et poser des questions, voilà, quand il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire tout seul.
Bah, c'est super. Et du coup, est-ce que tu as une autre petite recommandation ? Alors, ça peut être un livre, un documentaire, quelque chose voilà, pour en apprendre un petit peu plus sur le potager, quelque chose que toi, tu as aimé lire ou découvrir, qui t'a appris beaucoup de choses, que tu aimerais partager ?
Alors, je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a un livre vraiment intéressant quand on démarre au potager en carré, c'est le guide pratique du potager en carré d'Anne-Marie Nagelessen. Après, moi, le livre qui m'a marqué, c'est pas un livre pratico-pratique de tutos et de comment on fait, c'est plus philosophique. Finalement, c'est La révolution d'un seul brin de paille de Fukuoka. Et donc, dans une approche très permacole, voilà, ça permet de faire réfléchir, en fait, aux méthodes d'agriculture moderne. Et peut-être un début de remise en question. Le docu que j'ai vu récemment et qui m'a passionnée, c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle Kiss the Ground. Je ne sais pas si tu le connais. En fait, c'est passionnant pour en savoir plus sur les mécanismes de fonctionnement du sol et les interactions du sol avec le climat.
Bah super, on mettra toutes les infos du coup dans la barre de description. C'est des chouettes recommandations. Et pour finir, du coup, notre petite question qu'on aime bien poser, est-ce que tu as un conseil pour voir la vie en vert ?
Semer des graines et les observer germer et grandir.
Parfait, on est bien d'accord. Bah, merci beaucoup à toi, Aude. On remet de toute façon toutes les infos sur où te trouver, où trouver ta formation, etc. dans la barre de description. Et puis, on espère te retrouver du côté de chez Vert Magazine, peut-être un de ces quatre.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup à toi, Aude, du coup. À bientôt.
Merci Julie, à bientôt.
Cette interview est terminée, mais restez en ligne. Maintenant, place au mémo de Vert Magazine avec tous nos conseils pour mettre facilement en pratique le sujet découvert dans l'interview du jour.
Vous souhaitez installer un ou plusieurs carrés potagers pour cet été ? Rien de plus simple, voici ce qu'il faut retenir pour se lancer. Le potager en carré, on le répète, se pose à même le sol, sans fond, après avoir un peu préparé votre terre. À l'inverse, au balcon ou en terrasse, il vous faudra des carrés hors sol, des bacs spécifiques qui ont un fond et même parfois des pieds pour être en hauteur. Avant d'installer vos carrés, il faudra supprimer la végétation, pelouse ou autre. Le plus simple est de recouvrir l'intérieur de votre carré d'un grand carton qui va lentement se décomposer au fil de la saison. Pour les plus vaillants, vous pouvez accélérer un peu le processus en retournant la terre à l'aide d'une fourche sur les 10-20 premiers centimètres maximum. Ensuite, place au carré. Vous trouverez des carrés potagers facilement dans le commerce. Privilégiez les carrés en bois non traités, d'une taille standard de 1,20 m par 1,20 m. Vous pouvez bien sûr les construire vous-même, notamment pour en agrandir la longueur si vous avez de la place chez vous, et obtenir alors un rectangle potager. Par contre, retenez bien qu'il faut conserver la largeur de 1,20 m, afin de pouvoir accéder à toutes vos cultures sans les piétiner, ni vous faire mal au dos. Enfin, il faut remplir vos carrés potagers pour avoir une bonne terre de départ. Le plus simple est d'opter pour une terre végétale, facile à trouver en jardinerie. C'est l'élément le plus cher, il vous faudra environ 9 sacs de 30 litres pour un carré de taille standard. N'hésitez pas alors à vous renseigner autour de vous, notamment auprès des agriculteurs ou des paysagistes. Voilà, il ne vous reste plus qu'à diviser ensuite vos carrés potagers en 9 cases, ou plus si vous avez agrandi la longueur, à l'aide de tasseaux de bois ou de ficelles par exemple. Chaque carré accueille en principe une culture différente. Mais attention aux légumes encombrants. Comme Aude vous le rappelait dans l'épisode, une courgette prendra par exemple l'équivalent de 4 cases. Alors, qu'est-ce qu'on cultive dans ces 9 cases quand on débute ? Évidemment, on cultive en priorité les légumes que l'on aime, mais c'est intéressant de se concentrer sur des légumes productifs et à croissance rapide. Si c'est votre première expérience au potager, voici un petit exemple à adapter évidemment en fonction de vos envies. Sur 9 cases, on pourrait avoir une première case dédiée aux salades, en fonction des variétés entre 3 et 5 plants. Une deuxième case pour les radis, optez alors pour des variétés dites de 18 jours pour une récolte rapide.
une troisième case, encore pour des salades ou des radis, en fonction de vos goûts, mais que vous installerez par contre en décalé, une à deux semaines plus tard, pour avoir toujours de quoi récolter pendant la saison. Une quatrième case pour un beau plant de tomates cerises, évidemment. Une cinquième case pour un autre légume d'été, comme un plant d'aubergine par exemple, ou un plant de poivron. Les sixième et septième cases seront pour des aromates, par exemple ciboulette ou persil. Une huitième case pour semer des betteraves ou des navets. Et oui, ils sont faciles à réussir et ils peuvent rester longtemps en place. Et enfin, on vous conseille d'installer une neuvième case dédiée aux fleurs, déjà parce que c'est joli, mais aussi pour attirer les pollinisateurs et pourquoi pas pour les consommer. Vous pouvez par exemple installer des soucis, de la capucine ou encore de la bourrache. Voilà, il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique tous ces conseils pour profiter de vos potagers en carré cet été. La Voie Verte, c'est fini pour aujourd'hui. Vous retrouverez toutes les informations concernant l'épisode dans la barre de description et sur notre site www.vertmagazine.com, rubrique podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à nous laisser un avis positif sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous souhaitez mettre un peu plus de vert dans votre vie, on ne peut que vous conseiller de vous abonner à Vert Magazine, le mag des néo-jardiniers. Tous les numéros et les abonnements sont disponibles sur Vert Magazine, veirmagazine.com. Merci et à bientôt !